Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Après Benjamin Netanyahou, Benny Gantz renonce à former un gouvernement en Israël. Les explications de Frédéric Mettezeo à Jérusalem dans un instant. En France, le gouvernement fait un geste financier pour l'hôpital public. Mesure insuffisante pour l'opposition de droite comme de gauche. Nous verrons cela avec Pierre Neveu. Emmanuel Macron ne veut pas interdire les listes dites communautaires aux municipales. Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, le sociologue Claude Dargent. La crise politique continue en Israël. Benny Gantz, pressenti pour former le nouveau gouvernement, a finalement échoué. Le leader du mouvement centriste bleu-blanc avait jusqu'à ce soir pour bâtir une coalition, mais il n'a pas trouvé les alliés nécessaires à gauche comme à droite. Cet échec de Benny Gantz intervient après celui du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. La correspondance de Frédéric Mettezo.
Les chiffres sont implacables. Benny Gantz, pas plus que Benjamin Netanyahou, n'a de majorité absolue et donc, après 4 semaines de consultation, il a aussi échoué. Le député centriste souhaitait gouverner avec la droite, mais sans Netanyahou, qu'il juge démagogique et clivant. Mais la droite et ses alliés religieux et nationalistes ont fait bloc derrière le Premier ministre. Gantz a aussi tenté de former une coalition avec la gauche, soutenue par les députés arabes et le nationaliste Lieberman, mais ce dernier a refusé cette cohabitation avec les élus arabes. Ce soir, Benny Gantz a eu des propos très durs contre Benjamin Netanyahou. Il dénonce ses intoxications incompatibles avec la morale juive. Il l'accuse d'avoir déjà incité à la violence dans le passé. Une allusion très claire aux manifestations contre Yitzhak Rabin avant son assassinat en 1995. Manifestations auxquelles Netanyahou avait participé. C'est dans ce climat délétère qu'il reste 3 semaines pour résoudre la crise politique. Sinon, les Israéliens retourneront aux urnes en mars 2020. Ce sera le 3e scrutin en 11 mois.
Frédéric Mettezo, correspondant à Jérusalem. La chasse aux sorcières doit cesser maintenant. Voilà ce qu'écrit Donald Trump sur Twitter après une nouvelle journée difficile pour lui au Congrès américain. Le Congrès où se poursuivent les auditions dans le cadre de la procédure de destitution lancée par les démocrates. Les élus ont entendu le témoignage souvent accablant de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Gordon Sondland a mis en cause Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Les démocrates accusent le président américain d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour obtenir l'ouverture d'une enquête sur le fils de son rival Joe Biden. Le reportage de Loïc Loury.
C'est la grande question de cette affaire ukrainienne. Y a-t-il eu quid pro quo entre Washington et Kiev? La Maison-Blanche, en d'autres termes, a-t-elle retenu des centaines de millions de dollars en échange d'une enquête sur le fils de Joe Biden? Sur ce point, Gordon Sondland ne peut pas être plus clair.
I know that members of this committee... Je sais que des membres de cette commission réduisent régulièrement ces affaires compliquées à une simple question. Y a-t-il eu un quiproquo ? La réponse est oui.
À la tête de cette opération, Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, et cela, dit Sondland, à la demande expresse du président américain. Pour autant, l'ambassadeur conteste toute idée de réseau diplomatique parallèle. Tout le monde, dit-il, le président, le vice-président, le secrétaire d'État était dans la confidence.
Tout le monde était dans la boucle, ce n'était pas un secret, tout le monde était informé par email à la date du 19 juillet, plusieurs jours avant le coup de fil présidentiel.
Pourquoi alors avoir exécuté de tels ordres? Sondland reconnaît qu'il n'avait pas confiance en Rudy Giuliani.
On aurait perdu une opportunité très importante de cimenter les relations entre l'Ukraine et les États-Unis. Alors on a suivi les ordres du président.
Un témoin de première main, le seul dans cette procédure d'impeachment, accablant pour Donald Trump, mais peut-être trop juste pour renverser l'opinion.
Loïc Loury, notre correspondant à New York. En France, le gouvernement a donc décidé d'ouvrir son portefeuille pour répondre à la crise de l'hôpital public. Édouard Philippe a annoncé aujourd'hui une rallonge budgétaire d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Par ailleurs, l'État va reprendre une partie de la dette hospitalière. Enfin, une prime annuelle de 800 euros sera versée à 40 000 personnels soignants en région parisienne. Un train de mesures jugé insuffisant par l'opposition, de droite comme de gauche. Pierre Neveu a suivi les premières réactions au Sénat.
Le Premier ministre Édouard Philippe a beau rappeler que le gouvernement hérite d'un lourd passif en la matière.
Les chiffres de l'hôpital sont terribles. En 10 ans, l'investissement hospitalier a été divisé par 2 et dans la même période, l'endettement de l'hôpital public a crû de 40%. Ce phénomène rend insusceptibles les hôpitaux publics de dégager les marges de manœuvre qui lui permettent d'envisager son avenir.
Les mesures qu'il présente ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est du rafistolage, explique le sénateur LR du Vaucluse, Alain Milon. Il attendait des mesures pour les personnels de santé.
Les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Les 300 millions d'euros de plus pour 2020 sont à mettre en perspective avec les 800 millions d'euros de déficit annuel des hôpitaux. Et après avoir contribué à endetter les hôpitaux, faute de leur donner les moyens de fonctionner, vous vous contentez d'alléger leur dette d'un tiers.
Absence de mesures sur les salaires, pas d'annonce d'ouverture de lits, rien concernant les embauches. Le sénateur de l'Isère Guillaume Gontard, rattaché au groupe communiste et écologiste, promet une fin d'année délicate au gouvernement.
Il faut arrêter de parler d'héritage, on veut des actes, nos concitoyens veulent des actes et des actes tout de suite. Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir les yeux, alors les retraités, les chômeurs, les précaires, les étudiants, les pompiers, les personnels de santé, les cheminots, les gilets jaunes et tout le peuple que vous mettez à l'agonie finiront par vous les ouvrir. L'hiver social arrive et il sera rude.
L'appel à la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites risque donc d'agréger d'autres revendications et mécontentements. Voilà pourquoi plusieurs députés et sénateurs centristes demandent à l'exécutif de réunir une grande conférence sociale avant cette échéance.
Pierre Neveu, merci. Emmanuel Macron a tranché la question hier devant le Congrès des maires de France. Le président ne veut pas interdire les listes dites communautaires aux prochaines élections municipales. Bruno Retailleau, le chef des sénateurs Les Républicains, est furieux. Il est l'auteur d'une proposition de loi visant à interdire ces listes communautaires. Dans son collimateur, il y a notamment l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. On parle de ce sujet avec l'invité de ce journal, le sociologue Claude Dargent, professeur à l'université Paris 8, chercheur au CEVIPOF. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous étudiez notamment les liens qui existent entre la politique et les religions. Claude Dargent, est-ce que vous comprenez la position d'Emmanuel Macron qui ne veut pas légiférer sur ces listes communautaristes ?
Oh, c'est une position de bon sens parce que si on cherchait à légiférer dans ce domaine, fatalement, le Conseil constitutionnel derrière retoquerait ce type de législation. En France, il y a un principe de base fondé sur la liberté d'opinion qui fait que, quels que soient les termes de la loi dans ce domaine, je ne vois pas comment on pourrait interdire ce qu'on appelle des listes communautaires. En plus, il faudrait le démontrer.
Ça veut dire que la loi en France permet un label religieux sur une liste électorale ?
Ben, on a des exemples depuis de nombreuses années. Le parti démocrate musulman français qui agite un peu l'opinion en ce moment s'est présenté à de nombreuses échéances depuis sur cette décennie. Et auparavant, on avait un parti démocrate chrétien animé par Madame Boutin, qui n'avait pas du tout suscité le même émoi. Et pourtant, on est exactement dans le même cas de figure.
Mais pourtant, le communautarisme peut poser problème en politique.
Ça pose, pour le coup, un premier problème qui est qu'est-ce qu'on appelle le communautarisme ? Pour faire simple, dans le cas qui nous occupe, de ce parti qui se réclame de l'islam, il faudrait prouver qu'il menace de par son existence, de par ses propositions, le système républicain. Et franchement, quand on regarde ses professions de foi, je ne vois pas en quoi ça peut être le cas. Ce parti ne réclame pas l'institution de la charia en France, parce que là, pour le coup, on serait dans une voie de sortie du modèle républicain. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il réclame.
Claude Dargent, finalement, rien n'interdit dans la loi française la référence à une religion dans une profession de foi électorale.
Non, pour une raison très simple, qui est que déjà la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit la liberté d'opinion, même religieuse. Et donc, en l'occurrence, rien n'empêche de se réclamer d'une religion, de même façon que rien n'empêche de se réclamer d'une classe sociale ou d'autres formes d'appartenance sociale.
Et cette liberté religieuse, finalement, n'entre pas en contradiction avec le principe de la laïcité dont se réclame la République française ?
Le principe de la laïcité dit que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Mais fort heureusement, la liberté religieuse en France est complète et totale, liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc, en l'occurrence, il ne peut pas y avoir d'objection élevée, heureusement, là-dessus. On n'est plus au temps de Louis XIV et de l'éradication du protestantisme en France.
Claude Dargent, au-delà des listes communautaires, y a-t-il un vote communautaire en France ?
La France est une mosaïque de groupes sociaux, définie de tas de façons, notamment en termes religieux. Et c'est vrai que les différents groupes religieux, comme les différentes classes sociales, ne votent pas exactement de la même façon. Et même en l'occurrence, la religieuse est souvent plus explicative du vote que la classe sociale en France aujourd'hui. Pour autant, passer de ce constat à l'idée qu'il s'agit d'un vote communautaire, c'est, à mon avis, faire une erreur. Parce que ce n'est pas tant un problème de communauté, de consigne, je ne sais trop quoi, que de réactions similaires par rapport à des problèmes posés en matière d'avenir politique du pays.
Est-ce que, par exemple, il existe des spécificités dans le vote catholique en France ?
Très fortes. Les catholiques pratiquants, réguliers ou pas d'ailleurs, votent clairement, nettement plus à droite que la moyenne des Français. Et les musulmans votent, eux, clairement plus à gauche. Et naguère, les protestants votaient à gauche aussi, mais aujourd'hui, la montée des évangéliques fait que c'est beaucoup moins clair.
Est-ce qu'il y a aussi une spécificité dans le vote de la communauté juive ?
Alors, il y avait. La difficulté qu'on a pour répondre à votre question aujourd'hui, c'est que le nombre de juifs déclarés dans les enquêtes devient trop faible pour véritablement voir et tirer des conclusions d'ensemble. C'est pour ça que sur ce sujet, il faut être très prudent aujourd'hui. Mais sur les différents groupes religieux que j'ai évoqués avant, l'orientation est très claire.
Emmanuel Macron évoquait hier devant les maires l'existence d'un islam politique qui finalement pourrait menacer l'unité de la République. Est-ce que selon vous, cet islam politique, cet islamisme, si l'on entend bien le président, est-ce que cet islam politique existe aujourd'hui en France ?
Je trouve que c'est une expression dangereuse. Entendons-nous bien. Il y a un terrorisme qui se réclame de l'islam, mais qui n'a pas plus de rapport avec les musulmans que le terrorisme d'extrême-gauche dans les années 70 avait un rapport avec l'amélioration de la situation de la classe ouvrière. On a toujours en France eu, et ailleurs aussi, des formes d'instrumentalisation des milieux sociaux, des causes sociales. Pour autant, considérer que ces formes d'instrumentalisation créent un ensemble qui a un lien consubstantiel avec la cause dont elle se réclame, c'est quelque chose que je trouve dangereux. Les musulmans de France n'ont aucun rapport avec cela pour l'immense majorité d'entre eux.
Claude Dargent, sociologue, chercheur au CEVIPOF, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. J'accuse, le dernier film de Roman Polanski consacré à l'affaire Dreyfus est d'ores et déjà un succès public. Déjà plus de 500 000 entrées en une semaine, il prend la tête du box-office français. À l'évidence, les appels au boycott du film ont échoué et la polémique a peut-être même contribué à son succès. Rappelons que Polanski est accusé de viol par une photographe et la justice américaine le poursuit pour des relations sexuelles avec une jeune fille mineure. La polémique a pris une telle ampleur qu'en Seine-Saint-Denis, la collectivité Est Ensemble, qui regroupe 9 communes du département, a voulu déprogrammer le film dans les cinémas de son territoire. Mais devant le tollé, Rémi Brancato, la collectivité a finalement renoncé.
Oui, opération rétropédalage. Hier soir au Conseil de territoire, 7 à 8 élus demandent la déprogrammation du film de Roman Polanski des 6 cinémas publics. Gérard Combe, le président socialiste, accepte, mais ce matin, revirement, il appelle toujours au boycott, mais pas question de déprogrammer et de passer pour un censeur.
Je refuse catégoriquement de me retrouver sur une liste de noms aux côtés des maires Front National. C'était la dérive ouverte à une position de censure et je ne veux pas que les élus censurent la question de la liberté artistique.
Évidemment, les responsables des cinémas sont montés au créneau. Stéphane Goudet, directeur artistique du Méliès à Montreuil, dénonce une tentative de censure.
Ça crée un précédent, ça ouvre littéralement la boîte de Pandore et on se dit, bon alors voilà, quels sont les suivants sur la liste ? Et évidemment, cette logique-là devient une logique extrêmement dangereuse et liberticide pour moi.
Ce matin, le président du territoire a donc reçu les directeurs de cinéma. Il demande l'organisation systématique d'échanges sur les violences contre les femmes avec les projections du film. Sylvie Badou, adjointe à la maire de Bondy, assume pour autant d'avoir défendu la déprogrammation.
Ça a été une stratégie d'action pour évidemment aborder ce sujet. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de ces violences aux femmes. Et si je l'avais pas fait, certaines villes, évidemment, comme à Montreuil, ils ont eu un débat en amont. Mais je pense que dans d'autres villes, ça ne se serait pas fait.
Il sera compliqué d'organiser, on l'imagine, un échange à chaque séance à Montreuil. Un débat intitulé « Choisir de voir ou non le dernier Polanski » était déjà prévu au cinéma.
Rémi Brancato, merci. Le temps demain sera agité et très pluvieux sur les régions méditerranéennes. Sur les autres régions, le ciel sera variable et souvent brumeux. Les températures minimales seront fraîches, de 0 à 9 degrés du nord au sud. Les maximales évolueront entre 5 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.